Ça fait plus de 5 semaines déjà que je vous parle depuis mon bureau. Mon bureau, c'est une grande table en bois qui fait 2 bons mètres de large, 1 mètre de profond, qui est en bois brun-rouge et qui a été faite par mon papa. Voilà, si je vous parle de mon papa aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris, il y a quelques jours seulement, qu'il avait failli mourir en 1964 d'une grippe. Ça a commencé par de la fièvre, des nausées, des douleurs très fortes à la poitrine. Et puis son cas s'est aggravé et il a fait un arrêt cardiaque à la maison. Et donc ma mère qui était là, le médecin qui était là, ont tout de suite fait un massage cardiaque qui lui a sauvé la vie le temps qu'une ambulance arrive, l'emmène à l'hôpital et lui permette de se guérir. Et ce que mon père m'a dit, c'est que, apparemment, selon ses souvenirs en tout cas, il avait attrapé la grippe espagnole. Alors je ne sais pas si c'est juste ou précis, parce que la grippe espagnole, elle date de 1918-1919. Quoi qu'il en soit, il y en a eu beaucoup plus que j'imaginais de ces grippes durant le XXe siècle. Et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui avec Anne-Marie Moulin. Elle est médecin, elle est philosophe aussi, et elle a étudié l'histoire des pandémies.
La vie au temps du coronavirus.
Avec elle, on va parler de la grippe de Hong Kong. Ça aussi, c'est une grippe dont j'ai appris l'existence il y a quelques semaines seulement, alors que c'est une grippe récente. Elle a un tout petit peu plus de 50 ans, puisqu'elle s'est déclarée entre 1968 et 1969. C'était une grippe qui a été extrêmement meurtrière, beaucoup plus que le Covid, en tout cas aujourd'hui, parce qu'elle a fait 1 million de morts dans le monde et 30 000 en France. Et c'est une grippe qui est passée quasi inaperçue à l'époque. Elle a totalement disparu des mémoires collectives et individuelles. Elle n'a pas changé grand-chose à la marche du monde. Ce qui pose évidemment la question aujourd'hui de savoir si, comme on le lit et on l'entend beaucoup, la pandémie de Covid-19 que nous vivons aujourd'hui va, selon la formule, accoucher d'un monde nouveau, ou alors rester une simple parenthèse dans notre histoire. J'appelle Anne-Marie Moulin.
Allô?
Oui, bonjour, c'est Cyril.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bah écoutez, aussi bien que possible, il fait très beau à Paris.
Je vais juste régler le volume du micro.
Oui.
Donc, il faut que vous me disiez quelque chose. Qu'est-ce que vous avez eu pour votre petit déjeuner?
Rien, j'ai pas eu le temps de petit déjeuner.
Mais
Ben
non.
moi j'ai une autre question. Comment on prononce votre nom?
Dépra.
Vous prononcez pas le Z.
Non.
Pourquoi?
Je ne sais pas. C'est vrai qu'en Suisse, on ne prononce pas forcément toutes les lettres comme en France.
Ah oui, c'est pas seulement pour les noms en az.
Non, c'est pas seulement pour les noms as.
Non,
Bon.
bon d'accord. Allons,
Anne-Marie
allons-y.
Moulin, oui, allons-y. Merci beaucoup de me consacrer un petit peu de temps.
Parlez bien fort
Oui, alors attendez, je vais
et
approcher
le plus près
mon.
possible.
Ouais,
Oui, c'est mieux.
attendez, attendez,
C'est
attendez.
mieux.
Ouais, mais j'ai presque pas bougé là. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça?
Je vous entends mieux.
Ok, tant mieux. Donc merci de passer un petit peu de temps avec moi, Anne-Marie Moulin, pour parler de cette fameuse grippe de Hong Kong dont j'ai appris l'existence il y a quelques jours seulement. Qui était une grippe quand même très importante, puisqu'elle a fait, je l'ai lu, 1 million de morts dans le monde, plus de 30 000 en France. Alors, je vais sans doute vous paraître un petit peu inélégant, mais vous étiez déjà dans la vie active à ce moment-là. Est-ce que vous avez des souvenirs précis de cette grippe, vous?
Alors, pour répondre à votre question très indiscrète, en 68, je suis sortie de l'école normale et je suis en deuxième année de médecine.
D'accord.
Alors donc, théoriquement, je devrais être en première ligne et surtout très attentive à ce qui se passe dans la santé. Or, je n'ai strictement aucun souvenir de la grippe.
Aucun.
Et aucun. Et pourtant, à cause des événements de mai 68, qui pour moi sont les événements marquants de cette année, je suis très aux premières lignes quelque part, puisque comme l'université est fermée, nous sommes autorisés à faire des stages à l'hôpital, bien que je ne sois qu'en deuxième année de médecine. Donc en fait, à l'époque dont vous parlez, je suis à l'hôpital parfois 48 heures de suite et plus de 20 jours par mois. Et je n'ai aucun souvenir. À l'époque, ce qui nous tient en haleine, c'est la transplantation cardiaque, qui est donc notre première greffe de cœur. Alors ça, c'est un événement considérable. Donc ça fait la une des journaux. En août, je suis en vacances et comme tous les étudiants vacanciers, je suis en grande discussion avec mes parents et ma famille parce que pour ou contre mai 68 et partout autour de nous, sur la plage ou au restaurant, les débats sont vifs sur la signification de mai 68. Mmh. Donc je suis désolée, remarquez bien, ça c'est important, que en fait, l'OMS a décrété une urgence, une alerte pandémique mondiale, et ce, précisément au mois d'août.
Mmh. Août 68. Eh bien,
août 68. Donc je n'ai aucun souvenir de cette alerte, mais ça ne faisait probablement pas des gros titres. Je vous rappelle encore que si la grippe arrivait en Europe, elle était quand même surtout redoutable. Elle avait fait déjà des tas de morts en Chine, par exemple. La Chine, c'était loin.
À l'époque.
À l'époque. Ah oui, à l'époque.
Ouais. Mais bon, là, vous parlez d'août, de septembre. La grippe, la pandémie va durer quand même plusieurs mois. Il y a 30 000 oui. morts en France quand même. C'est plus qu'aujourd'hui, jour, le Covid-19. Pourquoi, selon vous, cette grippe est passée quasi inaperçue à l'époque, alors qu'elle a fait plus de morts qu'aujourd'hui le Covid-19, dont on parle partout dans le monde, depuis des semaines?
Il y a plusieurs facteurs qui viennent s'additionner, en particulier en ce qui concerne la France. D'abord, premièrement, le contexte politique, mai 68, on craint la guerre civile, ça, enfin, dans les souvenirs de tout le monde, ça a beaucoup plus compté, on attend les tanks, De Gaulle a disparu, il y a tout un tas d'événements dramatiques. Dans les hôpitaux, comme je vous ai dit, la greffe cardiaque ou bien le scandale constitué par le fait qu'il y a encore des femmes qui meurent de septicémie à cause des avortements. Donc on est mobilisé pour obtenir une nouvelle législation. Tout ça, ce sont des événements qui font écran. Et en ce qui concerne les caractéristiques de l'épidémie, moi je pense qu'il faut insister sur le fait que d'abord, elle a été très loin, elle a quand même touché massivement surtout le tiers-monde. Mmh. Et enfin, apparemment, la riposte a été rationnelle, bien organisée, et cerise sur le gâteau, il y avait un vaccin très vite.
Est-ce que le rapport à la mort a changé aussi, Anne-Marie Moulin?
Alors le rapport à la mort, oui, il a changé. On ne meurt plus comme autrefois, ce que j'ai encore connu en 68, les mourants dans des salles communes d'une trentaine de personnes, où on arrive tout d'un coup pour mettre un paravent, pour dérober le spectacle des derniers instants. Donc la mort est quand même, elle est encore présente. Depuis cette date, on meurt assez peu dans les hôpitaux maintenant, on meurt surtout dans les EHPAD. Oui. Et dans les EHPAD, là, la mort est discrète. Les EHPAD,
donc pour les Suisses, c'est les EMS, c'est les établissements pour les personnes âgées. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Dans la question du rapport à la mort, est-ce que vous dites qu'aujourd'hui on meurt moins dans les hôpitaux qu'à l'époque? Ça veut dire qu'au fond, cette proximité de la mort, elle était plus présente quand vous faisiez vos études de médecine, par exemple, qu'aujourd'hui?
Oui, alors là, il y a un contraste avec mon expérience d'étudiante en 68. On embauchait beaucoup d'étudiants à l'époque parce qu'on avait besoin pour les gardes. Et donc, j'ai fait beaucoup de gardes dans quelque chose qui commençait, dans la réanimation cardiaque, qui était à ses débuts, qui tâtonnait pas mal avec de nouvelles drogues dont on connaissait pas toujours bien les effets primaires et secondaires. Et donc, nous perdions à l'époque, dans une unité de réanimation cardiaque, parfois 2 morts par jour. Ça a été une expérience si frappante qu'à la différence de la grippe, je me souviens très bien des noms des malades.
Ouais.
Et donc, il y avait une mortalité considérable à l'hôpital, qui a certainement beaucoup diminué au fur et à mesure que d'abord on avait plus de prévention des accidents cardiaques et on manipulait mieux les drogues dans les maladies chroniques.
Donc du coup, ce rapport à la mort a changé, ce qui explique aussi que ça pouvait paraître naturel, entre guillemets normal, qu'il y ait autant de morts à l'époque par rapport à aujourd'hui.
Je pense que ça n'a pas fait scandale et je vous rappelle à cet égard que le scandale, la notion de scandale est quand même très variable parce que finalement, la riposte sanitaire en 1968 avait été, semble-t-il, satisfaisante. Ça n'est pas du tout le cas en ce moment, et les EHPAD, pour en revenir, les établissements pour personnes dépendantes, ont connu d'emblée une mortalité très importante et aussi un taux de transmission dans le personnel soignant considérable. Mmh. Il faut dire que maintenant, ce ne sont plus les médecins qui sont tellement en première ligne pour voir mourir, comme de mon temps, ce sont surtout les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants et aussi les auxiliaires de vie. Mmh. Et au moment du début de l'épidémie du coronavirus, dans les EHPAD, dans ces fameux établissements, il n'y avait pas de masques et le personnel qui s'occupe des vieux, forcément, est très exposé parce que plus encore peut-être que dans les hôpitaux, il y a toutes sortes de soins, on fait manger les vieux, on les lave, on les soigne et surtout ils s'agrippent à votre main parce que le soignant représente parfois le seul contact avec la société, donc nos vieux malades s'agrippent quelque part. Et bien tout cela s'est opéré probablement dans une atmosphère très démunie, sans masque, sans gants, sans équipement, et de là une plainte et une revendication qui montent de tout le personnel qui a travaillé et qui travaille encore dans ces établissements.
Ce que vous dites de manière plus générale, c'est qu'au fond, l'appréciation d'une pandémie dépend aussi du climat social. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, le fait qu'on se pose beaucoup de questions sur l'environnement, du coup, cette pandémie, avec dans ses effets de ralentissement de l'économie, il n'y a plus d'avions dans le ciel et tout ça, elle tombe à pic. Donc, il y a une sorte de conjonction de facteurs qui font qu'on en parle plus.
Vous avez déjà tout dit. En fait, vous avez employé les mêmes termes que la journaliste Sonia Shah. Sonia Shah, c'est une journaliste d'origine indienne, qui vient de faire paraître dans Le Monde un éditorial où elle dit « La pandémie vient au secours de vole au secours de l'écologie ». Autrement dit, il y a une coïncidence qui peut être exploitée par un discours politique, voire par des résolutions, entre cette diffusion du coronavirus, théoriquement à partir d'un réservoir animal vivant, hypothèse du marché vivant, de la chauve-souris et du pangolin, et que c'est ce bouleversement écologique quelque part qui est à l'origine de l'épidémie. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas tout à fait démontrable dans le détail, parce que l'affirmation, par exemple, que la population vit davantage au contact des animaux sauvages, ça, c'est quand même quelque chose qui a épluché de plus près. Mais globalement, c'est pour les écologistes le moment idéal pour faire le tour de toutes les modifications dramatiques de la biosphère, et en particulier, bien sûr, la perte de la biodiversité, la déforestation. Alors, tout cela fait une énorme attente qui, je crains bien, va être déçue parce que une fois le danger passé, en tout cas atténué, on va se retrouver avec un programme littéralement de révolution.
Et c'est-à-dire ?
Ça veut dire changer réellement plus de démocratie, mais aussi plus d'attention à la nature, un nouveau mode d'exploitation agricole, de nouvelles répartitions du travail industriel. Tout cela représente des réformes considérables. Or, qui sera d'accord pour faire cette révolution? On peut imaginer qu'à ce moment-là, la globalisation n'aura pas de vertu et que chaque gouvernement reprendra ses outils et aussi reprendra ses frontières.
Mmh. Ma question, elle n'était pas simplement au niveau de vos convictions, mais au niveau de votre analyse. Est-ce que dans l'histoire, les pandémies, vous en avez étudié beaucoup, sont des occasions de transformation des systèmes politiques, sociaux? Est-ce que l'étude des pandémies donne des clés par rapport à ce que l'humanité en a tiré par la suite?
Elle donne toujours des clés qui ne sont pas des passe-partout. Mais en fait, la plupart des épidémies, en particulier le choléra au XIXe siècle, sur lequel on est très documenté, entraînent des bouleversements politiques, pas seulement une grogne, mais même des émeutes. Au XIXe siècle, on parle d'émeutes colériques. elles sont coléreuses et colériques. En particulier en Russie, au début du 19e siècle et à la fin, au début parce que le tsar Nicolas les réprime les émeutes colériques avec beaucoup de violence, mais elles ont lieu aussi à la fin du 19e siècle, là où on voit clairement que justement ces bouleversements sociaux entraînent plutôt une répression qu'une révolution. Par contre, on peut considérer que les émeutes du choléra et le choléra tout court en Russie, donc dans les années 1892, 1898, 1899, vous voyez qu'on s'approche de la révolution de 1905, enfin de l'essai de révolution de 1905 et de 1917. Quelque part, on peut donc considérer que la révolte des moujiks contre les mesures prises pour le choléra, les émeutes de la faim et de l'épidémie dans les grandes villes, Pétersbourg et Moscou, ont été certainement un des ingrédients qui a joué un rôle dans la révolution de 1917. Mais vous m'accorderez que c'est quand même avec un temps de latence et que là, il y a eu un catalyseur, c'est évidemment la Première Guerre.
Mmh. Donc ça veut dire une pandémie n'est pas une bonne nouvelle pour l'humanité qui veut du changement. Ça fait des morts, ça crée de la souffrance et ça n'engendre pas de monde nouveau.
Je sais bien que la violence accouche les sociétés, etc. Je suis quand même, je l'avoue, très sceptique sur le fait que la violence de l'épidémie unisse les hommes, dans la mesure actuellement où on voit bien que il subsiste une grande injustice et malgré les déclarations gouvernementales, l'épidémie est fatale aux faibles et aux petits.
Mmh. J'ai lu dans un journal, je crois, on utilise le terme « accoucher d'un monde nouveau ». Vous n'y croyez pas?
Ah, vous êtes cruel. D'abord, il me reste peut-être...
Je suis désolé, c'était pas le but.
Non, j'espère qu'il vous reste plus d'années qu'à moi pour voir arriver le monde nouveau. Mais vous savez, moi j'ai aussi beaucoup chanté, cours, camarade, le vieux monde est derrière toi.
Ouais.
Et j'ai cru beaucoup, et qu'il y aurait des lendemains qui chantent. Quelle bêtise, quel aveuglement. Alors maintenant, c'est à mon tour de dire, oui, moi je souhaite, avec ferveur, un monde meilleur, un monde plus sympathique, plus ouvert, avec plus d'échanges, de reconnaissance d'autrui, mais je crains que des obstacles, des mécanismes que je ne maîtrise pas bien conceptuellement, des mécanismes économiques notamment, se remettent en place et que la société future ne retienne que l'héritage le plus désagréable de l'épidémie. Mmh. Par exemple, la généralisation du télétravail, par conséquent la distanciation à tous les sens du mot encore plus grande, la fracture informatique qui ne manquera pas d'être au rendez-vous, etc.
Donc vous n'êtes pas très optimiste.
Oh, n'insistez pas, n'insistez pas. Si, je veux croire que nos enfants auront un monde meilleur et je suis prête, dans mes faibles moyens, à y contribuer.
Très bien.
Mais je ne suis pas complètement optimiste. Mmh. Vous me pardonnerez pour... J'espère que nous n'allons pas nous quitter sur cette tonalité.
Non, mais si c'est la réalité, autant la dire.
Alors, vous m'avez un peu piégé tout à l'heure quand vous m'avez gentiment accusé de faire preuve de mes croyances. Et alors que vous me réclamiez une analyse objective. Alors, j'ai fait de mon mieux pour donner des éléments objectifs et je reconnais que quelque part... La croyance n'est pas nécessairement quelque chose d'irrationnel, ça peut être aussi la croyance que nous serons capables de nous organiser pour effectivement faire advenir ce monde meilleur dont l'épidémie nous fait entrevoir une lueur.
Ben voilà, on termine avec la lueur.
Voilà, j'ai fait exprès.
Merci beaucoup Anne-Marie Moulin.
Ça vous va ?
Ouais, mais c'était parfait, bien sûr que ça me va. Je vous remercie pour votre temps, votre disponibilité. Je vous souhaite une bonne suite. Prenez soin de vous.
Vous aussi.
Merci, c'est gentil.
Bonne journée.
Merci, vous aussi.
Bonne journée.
Au revoir. Par ma fenêtre, je peux voir un prunier. Il a commencé à fleurir, je pense que c'était au début du semi-confinement, il y a 5 semaines. Et c'est d'une douceur extraordinaire. Un prunier en fleurs, à 7h le matin, quand la lumière est encore une caresse Là, les fleurs sont tombées. Il y a une petite semaine, un jour de bise. Et aujourd'hui, le prunier, il a passé du blanc avec un soupçon de rose au vert tendre. Le monde change sous mes yeux. Voilà, fin de ce podcast. On se retrouve dans 3 jours. Je vous propose une rencontre avec une personnalité extrêmement attachante. C'est Daniel Larib. Vous vous souvenez peut-être de lui, il a été otage au Mali pendant 3 ans, entre 2010 et 2013, otage d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques mois après sa libération, et il nous parlera de comment il a vécu ce confinement imposé, et il nous parlera aussi de ce que nous allons vivre ces prochaines semaines, c'est le déconfinement. Il nous racontera comment lui a vécu son retour, après sa libération, à une vie dite normale.
La vie au temps du coronavirus.
Et puis, vous le savez, ce podcast, je souhaite aussi vous offrir la possibilité d'y participer, d'y parler, d'y témoigner, notamment ce qui a très concrètement changé dans votre vie, petite chose, grande chose, dans votre relation à vous-même, aux autres et au monde. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire cyril.desprats@rts.ch ou alors à laisser un message sur ma page Facebook. À tout de suite et prenez soin de vous.
La vie au temps du coronavirus, un podcast de la RTS produit à la maison par Cyril Desprats, Didier Rossa, Grégoire Moll et Magali Philippe. Il est présent sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast et évidemment Play RTS. Afin de ne manquer aucun épisode et de retrouver les anciens, abonnez-vous.